Allô?
Bonjour, je suis
Oui.
Lucas de Paris.
Oui, bonjour, merci beaucoup de m'avoir appelé. Ça va, je vous dérange pas?
Non, c'est très bien.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu rapidement et de m'avoir trouvé un moment. Donc, comme je vous l'ai dit, je me penche sur les listes citoyennes. Alors, j'ai eu pas mal de gens. Donc, que je vous resitue bien, vous, c'est France Démocratie Directe en Île-de-France, c'est ça?
C'est ça, oui.
D'accord. Peut-être que je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps, me dire un petit peu comment est arrivée cette liste, comment est né le projet, votre rapport peut-être avec d'autres engagements. Je vous laisse m'expliquer.
D'accord. Bah déjà, moi, je suis engagé dans la démocratie concrètement depuis 2012. J'étais candidat pour le RIC, c'est-à-dire pour le référendum d'initiative citoyen, à partir d'un groupe qui s'appelait le Rassemblement pour l'initiative citoyenne. Ça a été fait par Yvan Bachot, c'est un octogénaire qui défend le RIC depuis quelques décennies, qui a fait une liste aux européennes aussi en 2019. Ça s'appelait le MIC, je crois. C'était quand j'avais écouté Étienne Chouard en fin 2011 à Radio Ici Maintenant, il parlait du tirage au sort. Moi-même, j'étais déjà intéressé par la démocratie et tous les problèmes par rapport à ce qu'on appelle la démocratie, mais qui n'en est pas. Et bah, j'étais convaincu une demi-heure, j'ai dit qu'il fallait présenter ça aux élections. Bon, j'en ai parlé Étienne Chouard dans une vidéo qu'on trouve sur Dailymotion, mais il a toujours été récalcitrant et même il a ralenti le fait de se présenter aux élections. Il a été plutôt dans le sens de faire des ateliers constituants. Moi-même, j'étais cofondateur des citoyens constituants en 2013. Mais je me dis que faire ça, c'était une sorte de bac à sable. On pouvait faire ça pendant des décennies, de rester dans le virtuel au lieu de se confronter à l'arène publique. Donc, c'était un peu le problème qu'on avait avec Étienne Chouard, qui avait des gens au point de vue théorique, mais au point de vue pratique, il les a pas amenés vers des choses assez concrètes. Après, en 2014, il s'est fait une initiative par des jeunes de Chambéry. Ça s'appelait Démocratie réelle, où il y avait un tirage au sort de candidats pour les élections européennes de 2014. Bon, le tirage au sort s'est fait un peu trop tôt, un an et demi avant, donc ça a démotivé des gens, alors ça aurait pu avoir plus d'ampleur et être en synergie avec les municipales qui étaient 3 mois avant. En 2016-2017, il y a eu aux législatives, il y a eu Ma Voix, qui a été un projet assez radical, et d'un autre côté, il y a eu La Caisse Claire, qui était une coalition du Parti Pirate et d'autres partis. Et malheureusement, Ma Voix ne les a pas rejoints. Ma Voix a eu 15 candidats à 1% et la Caisse Claire en a eu 37. S'ils avaient été ensemble, ça aurait fait 52, voire plus. Et ils auraient eu le seuil qu'a eu par exemple Parti Animaliste pour avoir un financement et continuer à progresser. Et un défaut de démocratie réelle en 2014 et peut-être aussi de Ma Voix, c'est qu'au point de vue de... Il n'y avait pas vraiment d'association pouvait gérer les choses de façon démocratique, quoi. La démocratie réelle, par exemple, le site, il appartenait à une seule personne qui a finalement détruit le site et on voit plus que le clip de campagne. Donc moi, depuis 2012, je me suis dit qu'il fallait faire une organisation elle-même démocratique en fonctionnant par référendum interne. Donc à être un peu cohérent, parce que je voyais que l'association d'Yvan Bachot, là, le Rassemblement pour l'initiative citoyenne, n'était pas le fonctionnement démocratique. Et donc bah, j'ai un peu regarder un peu autour de moi pour faire ça, faire une sorte de fédération démocratique, et ça s'est fait finalement en 2018, après des réunions pour les municipales, pour faire des listes citoyennes démocratiques aux municipales, qui ont un peu dérivé comme bah, il y avait déjà les européennes, je vais refaire ça aux européennes, et on a fait une association qui s'appelle les Cinémos, qui défendait certains aspects de la démocratie, que ce soit le référendum d'initiative citoyenne, les assemblées tirées au sort, le mandat impératif, l'effectivité du vote blanc, l'autonomie des citoyens face à l'hétéronomie qui est, disons, propagée par des États ou des firmes. Et puis, bon, on a failli se présenter aux européennes. On a été en lien avec Place Publique, avec l'Urgence Écologie, avec le Parti Pirate. Mais il y avait des problème quant à l'aspect du fonctionnement démocratique, ils avaient du mal à vouloir, ou de la transparence. On aurait pu hein, se présenter, il manquait que quelques voix le vendredi soir, et on a su après que Nice a eu 2 jours de plus pour se présenter. Mais bon, de toute façon, il y avait 34 listes déjà, ce qui était beaucoup. Et puis, donc moi, j'étais dans les manifs des Gilets jaunes depuis le début. La présentation publique de Dismos, par hasard, ça s'est fait le 17 novembre 2018, donc lors de l'acte 1 des Gilets jaunes. Et moi, j'étais au manif des Gilets jaunes depuis l'acte 2, tout le temps. Ils étaient très récalcitrants, la plupart, à se présenter aux élections, à part quelques-uns. Mais le fait de vouloir se présenter aux élections, ça a quand même augmenté, en particulier avec le confinement, où les gens voyaient que ben, on pouvait stopper les manifestations, puis que les manifestations ben, ont quémandé, mais on n'était pas dans l'arène où en fait il peut y avoir des actions ben, coercitives, quoi, des actions légales où on prend la place petit à petit aux politiciens.
Le confinement a motivé les troupes à se mobiliser, c'est ça?
Oui. Déjà, ce qu'on faisait avec un gilet jaune assez connu en février-mars, celui qui a une croix, là, François Chomiki, qui a un surnom Jésus gilet jaune, on a fait des stands Place de la République en février-mars, juste avant le confinement, pour soutenir les listes participatives aux municipales. Il y en a eu à peu près 400. Selon le site Action Commune, là, qui est répertorié, il y en a eu 66 qui auraient gagné, avec 1300 conseillers municipaux, et il y aurait eu 700 conseillers municipaux dans l'opposition. C'est 280 000 électeurs. Après, leurs critères peuvent être un peu faibles, hein. La plus connue des listes, enfin, la première, la plus importante, parmi celles qui répertorient, c'est celle de Poitiers, mais en fait, c'est avec une élue des Verts qu'ils ont gagné. Et il y a un problème quand on, au fait que ces listes, effet ou non des référendums. En particulier, l'exemple le plus emblématique, c'était celui de Saillant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Non.
Non. C'est un village dans la Drôme où en 2014, il y a une liste de citoyens qui a gagné parce qu'ils étaient en opposition avec le maire qui voulait faire un supermarché. Et puis, bon, les citoyens voyaient qu'en fait, c'était minoritaire de cette volonté de faire un supermarché. Ils ont gagné. Il y avait une association en particulier qui s'appelait Démocratie Ouverte. Il y a eu des formations d'un local qui s'appelle Tristan Réchid. Mais en fait, c'était surtout des réunions participatives et ils n'ont jamais fait vraiment de référendum. Et là, ils ont perdu en 2020. Ils sont à 49%, hein, c'était fait. Mais je pense que s'ils avaient impliqué beaucoup plus les citoyens, ils auraient dû gagner à 66% la deuxième fois, quoi, satisfaire une majorité. Et pour les régionales, ben en fait, nous à Décidons, on propose une coalition qui s'appelle Décidons-nous-mêmes pour se coaliser pour les législatives. On disait que pour les régionales et les départementales, en fait, ça dépendait de la volonté qui se manifestait entre-temps, parce qu'il y a un seuil important qui est de 5% pour le remboursement. Pour passer au deuxième tour aussi, il y a au moins 5% pour faire une coalition avec un autre groupe. Et je me disais que ça dépendait en fait des régions où ça avait bien avancé, où ils avaient bien réussi au municipal. Je pensais en particulier à la Bretagne, à la Savoie, peut-être parce qu'ils sont proches de la Suisse ou à la région de Toulouse. Et finalement, avec le confinement, il y a déjà beaucoup de gens qui ont voulu faire des listes d'opposition, quoi, des gens qui sont dans la médecine alternative, j'ai constaté. Et moi, au Gilet jaune, il y a Lionel Brault qui est devenu la tête de liste, qui était très motivé pour relancer une liste. C'est vraiment un novice en politique. Moi, j'étais beaucoup plus pessimiste. Mais lui a été très optimiste. On a fait une première réunion, c'est vraiment très tard, hein. On l'a faite le dimanche 25 avril. Hein. Et là, on était un peu moins d'une vingtaine, une moitié de gilets jaunes et une moitié de gens qui a été amenés par une vidéo de Louis Fouché, une vidéo qui s'appelait « Élection sans candidat ». Donc, ça a amené beaucoup de gens ensemble, quoi, de classes sociales très différentes, quoi. Dans les gilets jaunes, bah, c'était plutôt des classes populaires, alors que réinfo Covid, il y avait pas mal de gens qui sont plutôt dans la bourgeoisie, mais qui sentent que, disons, on leur impose des mesures qui les gênent de plus en plus, quoi, par rapport aux enfants.
Donc, en fait, la vidéo de Louis Fouché et Réinfo Covid, ça a un peu réuni des gens, c'est ça?
Ça a réuni des gens qui n'auraient pas été ensemble, ouais, avant.
D'accord.
Okay. Tout à fait.
Parce que vous vous entendez sur cette idée de la gestion de la crise sanitaire qui est faite d'une manière que vous ne partagez pas.
Qui est contre. Enfin voilà, il n'y a pas de débat éclairé, c'est-à-dire ouvert aux deux parties. C'est-à-dire que dans les médias dominants, il y aura 99% du temps d'antenne qui est pour la vaccination, et les opposants, ils vont passer que dans des médias périphériques. Donc, si on veut faire déjà un débat éclairé, par exemple des référendums, faut une égalité du temps médiatique pour le oui et pour le non. Le dernier référendum qu'on a eu en France, c'était il y a 16 ans et quelques jours, là, on a fêté l'anniversaire. Il y avait déjà 90% du temps d'antenne qui était pour le oui. J'entendais que à la matinale de France Inter, il y avait 23 personnes invitées pour le oui et 4 pour le non. Et malgré tout, les Français ont quand même voté à 55% contre. Mais je pense que s'ils avaient été informés un peu plus de façon, disons, équilibrée, ça aurait pas été 55% de oui, mais ça aurait été beaucoup plus, enfin 55% non, mais beaucoup plus pour le non. Moi-même, j'ai voté encore oui. Parce que j'étais attiré par certains aspects, disons, de vitrine. Je voyage beaucoup et c'est agréable d'avoir une monnaie commune et de traverser les frontières. Mais j'étais pas conscient de certains éléments, en particulier que l'élément essentiel qu'il y avait dans ce traité, c'est qui crée la monnaie, quoi. Comment se fait la création monétaire. Et ça, je l'ai appris qu'en 2008, quand il y a eu la crise financière. C'est que les banques créent la monnaie par le crédit. Donc en fait, c'est un pouvoir énorme que Maurice Sallé, le prix Nobel d'économie, qui était presque jamais invité dans les médias jusqu'à sa mort à 99 ans, appelait les faux monnayeurs légaux. C'est en fait la réelle souveraineté, elle est là. Ceux qui ont cet oligopole de la création monétaire par le crédit et l'endroit vers où ils l'orientent, en particulier vers l'immobilier d'ailleurs.
Et donc il y a cette vidéo, il y a cette cause commune un peu qui vous rejoint autour de la gestion de la crise sanitaire. Et donc à partir de là, vous arrivez à former une liste, c'est ça?
Moi, ce qui est toujours à la base, c'est la démocratie réelle. C'est-à-dire que qu'on soit pour ou contre le vaccin, pour ou contre le port du masque des enfants, etc. Il faut qu'il y ait un débat éclairé, ouvert aux deux parties, et qu'il puisse y avoir une décision populaire, que ce soit par référendum pour les décisions les plus importantes, ou que ce soit par des assemblées de tirés au sort représentant la population, un peu comme dans les jurés d'assises, c'est-à-dire que le juré juge en fonction des arguments de la défense et de l'accusation. À égalité.
Et alors, avec cette liste, vous avez un projet pour la région, qu'est-ce que c'est?
Le projet essentiel, c'est qu'il y ait une transparence de ce qui se passe dans les conseils régionaux, c'est-à-dire que si on avait des élus, ces élus devraient transmettre à la population, en particulier par un site, ce qui se passe dans les conseils régionaux et consulter l'avis des franciliens. Voilà. Et donc les franciliens s'exprimeraient sur cette plateforme. Ce serait des sortes de sondages et nos élus devraient transmettre cette volonté populaire dans les conseils régionaux.
Et vous espérez quoi? Vous visez un certain score?
On est un peu divisé là-dessus, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont optimistes, qui pensent qu'ils vont être au deuxième tour, 5-10%. Moi, j'ai tendance à être plus pessimiste, mais déjà, c'est une surprise qu'on ait réussi à faire la liste, parce que, vu qu'on s'est lancé le 25 avril, réunir 225 personnes en 3 semaines, c'est assez exceptionnel. Je vois que Dupont-Aignan n'a pas fait de liste. Tas de gens comme Foyer, Philippot, Asselineau n'en ont pas fait. Donc quand même, en 9 ans, je vois que la progression de la volonté de démocratie, elle augmente. Il y a le thème du RIC déjà sur les Gilets jaunes qui est apparu, alors qu'en 2012, on était très très peu. Donc avec les moyens d'information, Internet, Les gens qui voient que ce qui passe à la télé, c'est pas forcément représentatif de certaines autres informations, les gens sont plus éveillés et...
Et vous êtes aussi peut-être plus organisé, non, qu'en 2012, parce que maintenant, il y a quand même une grosse présence sur les mairies, par exemple.
Plus organisé, déjà, nous, on a, Desimos, on a réussi à faire un parti grâce à un ami que j'ai rencontré au citoyen constituant et qui est avocat. Et c'est assez difficile, hein, on nous met beaucoup de bâtons dans les roues. Les banques nous avaient refusé en 2018, la Banque de France nous avait désigné deux banques, parce qu'il faut deux comptes bancaires pour en avoir un parti. C'était deux banques différentes, ce qui est déjà un inconvénient, mais la Société Générale avait quand même résisté pendant les, en début 2019, pendant les européennes, ce qui nous a, retardé pour les européennes. On a dû faire un procès en référé contre la Société Générale, qu'on a forcément gagné, parce qu'ils devaient ouvrir le compte. Et, après, il y a les, trouver un commissaire au compte, pour un petit parti, c'est très difficile. Ils peuvent tarder. Après, la commission des partis, elle dit qu'elle va être indulgente par rapport au problème qu'il y a avec la pandémie, leur site qui fonctionne mal. Mais en fait, ils n'ont pas du tout été indulgents. Ils nous ont empêché de faire une campagne jusqu'à ce qu'on présente les comptes de l'année suivante et de faire la défiscalisation. Donc ça, ce qui fait que, au lieu d'utiliser une structure de parti qui aurait simplifié les choses, on doit trouver des mandataires financiers personnels. Pour la liste régionale, c'est Alfonso Dorado, d'ailleurs, le président de Desimos, là, cet avocat dont je vous ai parlé. Et puis d'autres mandataires financiers pour la... je crois que c'est cette liste qu'on a aussi au départemental, dans différents cantons.
Et à quel point vous êtes... est-ce que vous dialoguez avec les autres listes citoyennes, comme un autre moment d'union essentielle qu'il y a dans différentes régions?
Oui, tout à fait, tout à fait. On a même fait... moi, j'ai fait deux directs avec eux, pour présenter un logiciel qu'on a financé à Desimos. C'est un logiciel qui permet de faire des délibérations, des votations, où les gens vont s'inscrire selon leur bureau de vote. Et à partir de leur bureau de vote, ils pourront participer aux assemblées qui correspondent, c'est-à-dire à leur assemblée municipale, leur assemblée départementale, régionale, nationale. Et donc, on a présenté ça. Moi, j'ai eu des très bons rapports, en particulier avec la tête de liste de Pays de Loire, Linda Rigaudot, qui est très ouverte sur la démocratie, c'est-à-dire que la conscience qu'elle est responsable en tant que tête de liste, c'est-à-dire que les lois font que on appuie vraiment énormément sur la responsabilité de la tête de liste, ce qui n'est pas très facile quand on veut faire de la démocratie en interne. Mais elle dit qu'elle veut distribuer la parole, mais en même temps, comme elle est responsable, ses porte-paroles ne peuvent pas dire n'importe quoi. Donc moi qui étudie la démocratie en théorie depuis 9 ans, donc qui avait écrit des articles dans particulier à Gouravox, j'ai donné des éléments de discours, parce qu'il y a des pièges, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent avoir tendance à dire on est contre la vaccination, mais non, c'est un élément programmatique qui sort du cadre démocratique. On doit dire que c'est aux citoyens de le décider, mais on n'a pas à mettre d'emblée qu'on est, par exemple, contre la vaccination. Ça se décide après un débat.
Ça a l'air d'être le fait d'être plutôt opposé au masque et à la vaccination, ça a l'air d'être quand même un point assez commun à toutes les listes, à toutes ces listes citoyennes. J'ai l'impression que vous entendez à peu près tous en même sur ce discours.
On peut avoir personnellement une majorité de gens qui sont comme ça et qui sont motivés pour rejoindre ces listes, effectivement, mais quand on voit les gens qui sont dans ces listes depuis longtemps, je pense à Jean-Marc Fortanet, c'était des gens qui sont dans la démocratie avant qu'il y ait eu le problème de la pandémie. Après, dans les nouvelles personnes, j'ai vu effectivement qu'il y avait pas mal de naturopathes ou des médecins. Ça a accéléré cette volonté de maîtrise populaire. Mmh. Effectivement, s'ils étaient tous d'accord avec ce que fait le gouvernement, ils s'engageraient pas vers une volonté démocratique. Moi-même, j'avais trouvé que tout était parfait dans la science, parce que dans les années 90, j'ai été cobaye pour l'industrie pharmaceutique, puis après je me suis intéressé à l'affaire Beljanski, j'ai suivi des procès et je vois qu'il y a des mensonges scientifiques, médicaux qui durent depuis longtemps. Donc ça, déjà, ça m'a motivé vers la démocratie. Apprendre sur l'économie, la création monétaire, ça m'a encore plus motivé dans le fait qu'il y a une oligarchie qui désinforme la population, les milliardaires qui achètent les médias pour influencer la population. Donc Même là, si on fait un référendum, ben, je pense que la plupart des gens seront pour la vaccination parce qu'ils sont informés ou désinformés par, par certaines dominations de certaines idées. Mmh. Ils auraient d'autres opinions s'ils étaient mieux informés. Donc c'est ça qui compte.
Mmh. Et une dernière question, est-ce que c'est régional, ça peut aussi être un entraînement pour,
oui.
Vous m'avez parlé des législatives par exemple.
Tout à fait.
C'est un entraînement, c'est une organisation pour d'autres élections.
Tout à fait. Pour moi, ce qui va compter, c'est à quel point on arrive à faire une coalition au point de vue national pour les législatives. Donc c'est pour un mouvement de naissance, c'est les législatives qui sont les élections les plus importantes. Bon, il y en a qui croient qu'ils vont gagner, bon ben les régionales, il y en a qui croient aussi qu'ils vont gagner la présidentielle. Moi, j'y crois pas. Mais par contre, si par exemple Macron est réélu, il y aura un certain désinvestissement pour les législatives, et c'est là que on peut avoir un score de plusieurs pourcents, avoir un financement qui permet de progresser. Moi, je vois ça à long terme et de façon assez lente, mais il peut y avoir certaines accélérations, mais je vois que c'est déjà assez difficile de se rassembler, c'est-à-dire que même ceux qui se disent démocrates, des fois, ils ont du mal avec un fonctionnement démocratique qui, pourtant, permettrait de nous rassembler.
Donc, le but, en fait, de toutes ces listes serait de réussir à monter quelque chose qui pourrait vous faire entrer peut-être même des députés à l'Assemblée.
Bah, les députés, on verra, parce que faut avoir c'est un scrutin majoritaire, donc, il n'y a pas de proportionnel.
Après, mais au moins un financement, quoi.
Déjà, au moins un financement. Après, sur le fait d'avoir des députés, bon, une députée qui est relativement proche, c'est Martine Vonnerre, mais elle a été élue parce qu'il y avait La République En Marche à l'époque. Est-ce qu'elle serait réélue avec un mouvement citoyen, ben ça c'est à voir.
Mais à terme, vous espérez quand même que tout le monde va se réunir sous un même mouvement pour les législatives.
Oui. Il faut faire une coalition pour les législatives, c'est indispensable. Ouais. Pour les régionales, ben on pouvait être séparés dans les régions, donc il n'y a pas trop de doublons. Le seul aspect où on peut discuter s'il y a un doublon ou pas, c'est en Bretagne avec la liste de Daniel Cueff, celle de l'Union Essentielle, mais quand j'ai regardé la page d'accueil du site, ça insiste pas trop sur la démocratie, c'est assez axé sur lui, ça parle du climat, donc c'est un peu plus classique.
Oui, c'est pas exactement le même esprit.
Ouais.
Ok, d'accord. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour toutes vos explications.
Bah, je vous en prie.
Et vous, du coup, sur la liste d'Île-de-France, votre rôle, c'est quoi exactement?
Bah là, on m'a placé en tête de liste départementale du Val-de-Marne.
D'accord, ok.
Et sinon, je m'occupe pas mal de communication sur l'aspect démocratique, hein, surtout.
Okay.
J'insiste là-dessus, même en interne, parce que c'est pas évident pour tout le monde, il y a beaucoup de gens nouveaux. Voilà, c'est pas mal de débats là-dessus, mais c'est très enthousiasmant. Hein.
D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, et puis je vous souhaite une bonne journée et une bonne suite de campagne.
Vous aussi, bonne rédaction de votre article. Au revoir.
Au revoir, merci.